La voie ferrée.
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 C'est là.
Radio du collège Jules Ferry.
Bonjour à tous et bienvenue sur La Voie Ferrée. Aujourd'hui, nous sommes au jardin Minorel de Marcq-en-Barœul pour une émission exceptionnelle autour du thème « Venir d'ici ou d'ailleurs ». Si vous n'êtes jamais allé au jardin Minorel, soyez tout ouïe. Ce sera l'occasion de découvrir ce lieu merveilleux.
Au programme d'aujourd'hui, on vous parle de notre pays, la France, de son aspect cosmopolite, de sa diversité, de la double culture ou encore notre pays rêvé. On va tenter de tout vous expliquer avec nos chroniqueurs et nos invités.
On commence avec les clichés sur les Français. D'ailleurs, Antonin, qu'est-ce qui représente le plus la France pour toi ? Camembert, baguette, béret ?
Eh bien moi, c'est plutôt la grève.
En effet, typiquement français. Accueillons tout de suite nos trois chroniqueurs qui se sont intéressés aux clichés sur la France et les Français.
Salut Marco et Rima.
Salut Marco.
Je viens de voir une vidéo TikTok d'une américaine, elle parlait des Français. Vous savez qu'à l'étranger, on pense qu'on porte des marinières, des bérets, une baguette sous le bras, qu'on mange du fromage avec un verre de vin.
Oui, et qu'on est les rois des râleurs, des grèves et qu'on ne se lave pas assez souvent. Ah, et j'ai oublié, ils pensent qu'on ne sait même pas parler anglais.
Ah bah ça, c'est pas faux.
Mais arrêtez un peu vos clichés à la Emily in Paris.
Nos quoi, Emily qui ?
Mais oui, vos clichés. Vous savez, les idées toutes faites qu'on a au propos d'un sujet. Là, c'est clairement ça. Les Français sont ci, les Français sont ça. Et si on demandait aux Français ce que c'est la France ?
Bonjour, donne-moi un mot qui représente la France.
Les coqs, je sais plus si c'est un coq ou un poulet, mais c'est un coq, je crois. Un coq, voilà. Parce que c'est un peu le signe de la France.
Une baguette. Parce que souvent, on représente la France avec les baguettes, avec un petit béret, avec une baguette dans les bras.
Moi, je pensais au croissant, car ça a été fabriqué en France.
Moi, je dirais la gastronomie, parce que la France, dans le monde, elle est connue pour sa gastronomie. Et bah, parce que, bah, voilà, c'est tout, genre, parce qu'on mange bien en France.
Extraordinaire, pour la nature.
La démocratie, car c'est notre régime politique.
L'égalité. On est tous égaux, n'importe notre couleur de peau et tout ce qu'il y a avec.
Paris, parce que c'est une ville lumineuse.
Mon mot pour la France, c'est libre.
Pour moi, c'est le mot liberté, parce qu'en France, on a beaucoup de droits et c'est une chance.
Alors moi, c'est la nourriture, car je retrouve qu'on a des traditions en France de nourriture extraordinaire.
Le fromage.
Quoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de fromage. Et comme me disait Charles de Gaulle, c'est dur de régner sur je sais plus combien de fromages.
Eh bien, même en France, certains clichés sont bien ancrés.
À vrai dire, il est difficile de parler de la France en un mot, tant elle offre une multitude de possibilités. Et si on revenait sur les choses les plus représentatives de notre beau pays ?
La Voie Ferrée, la radio du collège du Ferry.
Notre pays se distingue grâce à sa gastronomie. Plus de 3240 vins différents, plus de 300 fromages, 10 milliards de baguettes produites par an. Le repas gastronomique des Français classé au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, la gastronomie, c'est un point fort de notre pays.
Ce sont aussi les monuments historiques et l'art qui font de la France l'un des pays les plus visités dans le monde. La cathédrale Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le château de Versailles et ses jardins, le Mont Saint-Michel et même des ponts comme celui d'Avignon ou le pont du Gard. Nous avons de grands musées comme le Louvre, le musée d'Orsay, le centre Georges Pompidou et je ne vous parle même pas des artistes qui font la renommée du pays. Maupassant, Sartre, Camus, Hugo, Zola.
Ça en fait des choses à voir. On doit être vachement cultivé en France, dis donc.
Et que dire de la mode ? On dit des Français qu'ils sont stylés, d'une élégance et sophistication suprême. Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Jean-Paul Gaultier, des marques de luxe appréciées et reconnues dans le monde entier.
Alors oui, les Français peuvent râler, se plaindre, s'exprimer, contester par les grèves.
Pas content ! Pas content !
Ne pas être très bon pour parler d'autres langues.
Oh yes, of course.
Mais la France attire car elle est un pays à multiples facettes. Elle est aussi une terre d'accueil.
Chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir, alors ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien, on veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. Quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Sur la Voie Ferrie à l'écoute de notre émission spéciale sur le thème « Venir d'ici et d'ailleurs ». Et vous avez entendu la chanson « Ouvrez les frontières » de Chikenja Fakoli et Soprano. Naïm, je te laisse la parole.
Merci Faustine. Saviez-vous qu'au 1er janvier 2022, la France comptait 68 millions d'habitants? Parmi tous ces gens, c'est aussi la variété des cultures, des origines, des religions, des histoires qui est d'un plus. Cet aspect cosmopolite est une vraie richesse.
Mais cosmopolite, ça veut dire quoi?
Les racines de ce mot viennent du grec ancien « cosmopolites », qui signifie « citoyen du monde », dérivé de « cosmos »,« monde » et « politesse », »,« citoyen ». Pour faire simple, on peut dire que la France est cosmopolite parce qu'elle se tourne vers tout ce qui est étranger. Elle comprend des personnes de tous les pays et subit les influences de nombreux pays. Écoutons Océane AED qui nous parle de diversité.
Alors j'ai choisi le mot « diversité ». Alors diversité parce qu'il y a plein de cultures en France, j'en fais même partie puisque ma famille est portugaise, donc il y a beaucoup de pays qui sont représentés au sein de la France, et diversité au niveau aussi des paysages, puisque la montagne, les mers, les dom-toms, on est représenté un petit peu dans tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot diversité.
Pour donner un exemple concret, on peut parler de la ville de Lille. Son histoire est riche. Après avoir été dévastée par les guerres, la ville a été reconstruite et a prospéré grâce au commerce et à l'industrie. Elle a aussi attiré de nombreux immigrés, principalement des marchés, des marchands et des artisans, et est aujourd'hui cosmopolite. À l'instar du marché de Hassem, qui est l'un des plus grands d'Europe, c'est le rendez-vous incontournable de ce coup de pas différentes cultures. En traversant les étals, ça y groupe de toutes parts. On traverse l'Europe, le Maghreb, l'Afrique noire.
La Voie Ferrie, la radio du Collège du Ferry.
Mais pourquoi y a-t-il autant de nationalités différentes en France? Léonie, Justine, vous pouvez nous expliquer?
Ok, alors je vous explique. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, la France a accueilli en de multiples vagues des millions de migrants qui lui donnent aujourd'hui son visage cosmopolite. À cette époque, l'immigration avait pour but de redynamiser le marché du travail et de reconstruire le pays, notamment après la guerre. Au cours de la première vague migratoire, les migrants venaient directement des pays voisins de la France et se sont installés avant tout dans les régions frontalières. Les Belges dans le nord, les Espagnols dans le sud-est et les Italiens dans le sud-est. Justine, tu nous fais la suite ?
Lors de la deuxième vague d'immigration qui suit la Première Guerre mondiale, ce sont d'autres nationalités qui arrivent, avec notamment l'immigration polonaise, russe et arménienne. La troisième vague d'immigration correspond à un double afflux du Maghreb et de la péninsule ibérique. En 1974, le contexte économique se dégrade et on limite l'immigration de travail. Ce sont les familles des hommes arrivés pour travailler qui rejoignent notre pays. En 2021, on estime à 7 millions le nombre d'immigrés vivant en France, soit 10,3% de la population totale. 2,5 millions d'immigrés, soit 36% d'entre eux, sont français. Ils ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée en France.
Merci les filles pour ces explications. Mais alors, ça signifie que parmi nous, il y a probablement des élèves qui sont issus de cette immigration ?
Eh bien oui, c'est ça. On écoute d'ailleurs le témoignage de certains élèves qui évoquent leur double culture.
Bonjour Daniel. Tu es un élève en classe de 3e au collège Jules Ferry. Aujourd'hui, on est là pour parler de ta culture, de tes origines et de tes traditions. Est-ce que tu peux m'en parler
Je suis d'origine camerounaise française. Aujourd'hui, on va parler de ma culture. Donc, je suis d'origine camerounaise. Je connais un peu ma culture, mais je suis pas. Il y a des choses que je veux pas connaître.
Ah, est-ce que tu es né en France ou tu es né là-bas?
Je suis né en France, à Montbéliard, et c'est mon grand frère qui est né au Cameroun.
D'accord. As-tu déjà été au Cameroun?
Non, je devais partir en 2019, mais malheureusement, il y a eu le Covid-19, donc ça, ben voilà. Quoi.
Est-ce qu'un membre de ta famille a déjà été là-bas, à part
ton grand frère? Ma mère est née là-bas, quoi.
En France, est-ce que tu vis les traditions camerounaises?
Oui, un peu quand même, à travers les plats. Je voyage à travers les bons plats de ma mère. Et c'est très bon, c'est très savoureux. Ça me donne envie d'aller au Cameroun. Et puis voilà. Et aussi par le dialecte que ma mère parle, ça m'intéresse un peu. Quoi, quand elle parle au téléphone, bon, il y a des mots que je comprends, mais je ne sais pas parler. Je sais dire quelques mots, par exemple, bonjour. Donc, en camerounais, on dit Bobom Kiri. Et la personne doit répondre Kirimbon.
Est-ce que le Cameroun a une place importante pour toi?
Un peu, oui. Parce que c'est mon pays d'origine, même si je ne suis pas allé, mais j'aimerais bien.
D'accord, merci.
De rien. Quelle est ton origine, Maïsan?
Alors, moi, je suis d'origine marocaine et française.
T'es déjà allé au Maroc?
Oui, je suis déjà allée. J'avais 6 mois quand je suis partie.
Quelle est la place du Maroc dans ta vie?
Bah moi, ça prend une très grande place parce que bah avec ma famille et tout, on vit de ça.
C'est quoi les traditions?
On a plusieurs fêtes, des petites fêtes chaque semaine, pendant une fois par semaine, on se réunit. Donc tout ce qui est tante, cousine et tout, on se réunit tous chez quelqu'un. Et on reste là-bas pendant 4, 5 heures, 6 heures. Enfin, on profite du moment quoi, de se voir ensemble.
Je sais que vous avez une culture où la nourriture est très importante. Ouais. Je sais que bon, j'ai déjà goûté des plats marocains, tunisiens, algériens. Et c'est cela, et c'est très bon. Vous pouvez m'en parler de vos plats?
On a par exemple le couscous, celui que tout le monde connaît.
Ça, c'est
le
magnifique.
Le tagine. Mmh. Ensuite, on a le thé marocain, tu vois.
Ouais, le thé, oui, c'est une très bonne spécialité, c'est vrai. Est-ce que tu parles arabe? Et si tu parles arabe, tu pourrais dire quelques mots
Alors, je ne parle pas arabe, mais je parle rif. C'est un dialecte...
Marocain?
Pas forcément marocain, mais dans certaines villes ou certains villages, on parle vraiment de ça.
De quelle ville tu viens du Maroc?
Je viens de Bentiyeb.
Moi, je connais pas. Mais c'est où au Maroc?
Alors là, c'est un peu vers nord-est du Maroc, à peu près.
Bon, c'est là où ta famille vit, quoi.
Ouais.
Tu pourrais me dire quelques mots?
Tazoret Soremen.
Et ça
je
veut dire?
Je veux boire de l'eau.
Ah ouais, c'est une très belle langue. Merci Maïsan.
Pas de rien.
Ben, ça donne envie un peu de retourner au Maroc, quoi. C'est avec les plats surtout, parce que je suis un très gros gourmand. Donc ça m'a l'air très intéressant.
Salut Yanis. Aujourd'hui, on va parler de ta culture, de tes origines et de tes traditions. Première question, c'est quoi ton origine ?
Je suis français d'origine congolaise.
Est-ce que tu as déjà été dans ton pays d'origine ?
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que mes parents n'ont pas le temps. Je devais y aller récemment, mais il y a eu la naissance de mon petit frère qui fait que ça m'a freiné dans mon voyage là-bas.
D'accord. Est-ce qu'un jour, tu voudrais y aller ?
Bien sûr, je voudrais y aller pour rencontrer ma famille qui habite là-bas.
Chez toi, est-ce que tu vis de tes traditions à travers les plats ou des fêtes ?
Mon père cuisine de temps en temps de la nourriture congolaise, notamment le gombo, le chikwang et d'autres nourritures. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Ça m'arrive de parler lingala avec mon père, le lingala qui est le dialecte de mon pays, mais ce n'est pas trop souvent.
Est-ce que cette origine te prend une grande place dans ta vie ?
Bien sûr, moi je suis très fier de mes origines, mais je vis plus français que congolais, en mode, le fait que la moitié de ma famille est française, je vis pas trop avec le Congo en fait.
Bah alors, ça veut dire quoi être français pour toi ?
Bah, entre le Congo et la France, il y a beaucoup de... les traditions sont différentes, il y a des cultures différentes, ce qui fait que... Entre mes origines congolaises et mes origines françaises, j'ai pas la même culture, donc je dois vivre un peu avec des cultures différentes.
Est-ce que c'est difficile pour toi de vivre de tes origines en France ?
Non, on s'habitue. Oui. C'est pas compliqué.
Tu reçois quelques critiques en fonction de avec tes origines ?
Non, bon, à part quelques personnes, admettons dans le bus ou je sais pas quoi, qui sont racistes, mais bon, ça c'est pas que avec le Congo, c'est avec tous les personnes de couleur généralement en France.
Merci d'avoir témoigné aujourd'hui avec nous.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Super témoignage de nos camarades. Place maintenant à la musique avec un duo qui réunit deux artistes. Le premier, Gaël Faye, un auteur, compositeur, interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais. Et le second, Ousmane Danenjo, un auteur, compositeur, interprète qui a découvert l'Afrique à l'âge de 17 ans. Une rencontre qui a bouleversé sa vie, il chante en français Wolof, Bambara et Peul. Ils jouent de la guitare, de la kora, du nongi, de la percussion. On les écoute dans la chanson Métis.
Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté. Mes refrains, mes couplets, écouter le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Couteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité. Identité de porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'efface et m'effraie comme Damas. Mon sentiment de race, blanc et noir, quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton, nos rabots se mélanger, on restera des cons. La race humaine, un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique, donc c'est dit, je suis noir dans ce pays. C'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis, le reste c'est de la bêtise. Voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent. J'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi, toi l'autre différent, mais au fond si proche de moi. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'impliquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'impliquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité.
Métissé blessé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Balloté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent, complexé, toujours en quête d'identité. Y'avait le blanc, y'avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan, à la saison des fontes. Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire. Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu, issu de sang pur. Je vois bien, ces questions ne nous mènent à rien. L'humanité est colorée, donc soyons daltoniens. Je vous parle d'amour, moi, vu qu'il expire dans un mouroir. Je suis mulâtre et ben albâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de sang entre ciel et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Quand deux fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Se rencontre, n'en forme plus qu'un.
Toujours sur La Voix Ferrée en compagnie de nos chroniqueurs. C'était la chanson Métis du duo Gaël Faye et Ousmane Danadjo. On continue à présent notre émission sur le thème Venir d'ici ou d'ailleurs. Saviez-vous que les artistes français se sont passionnés pour les contrées lointaines, l'ailleurs, l'exotisme ? Alice, Emma, Gay et Camilla vous racontent tout.
Ah mais c'est passionnant cette notion de double culture.
Oui, passionnant, comme tu dis. Tu savais qu'au 19e siècle, on s'est beaucoup intéressé aux cultures des autres peuples ?
Non, explique-moi.
Avec Gaïk, on va te parler d'un courant artistique qui s'appelle l'orientalisme. Tu en as déjà peut-être entendu parler dans tes cours d'histoire ou d'art.
Ça ne me dit rien.
Depuis toujours, les autres cultures passionnent les Européens. Tu as déjà étudié le bourgeois gentilhomme de Molière, les contes de Mille et une nuits et ses savoureuses histoires, ou entendu la marche turque de Mozart. Vas-y Gaïk, explique-nous.
Après la Révolution, la bourgeoisie a besoin d'évasion, par le rêve ou le voyage. Les artistes empruntent des thématiques inexplorées pour soulager leur tristesse. L'exotisme apparaît comme l'une des solutions au mal du siècle. Et sinon, Bonaparte, ça te parle ?
Ouais, vaguement.
Bon, alors, lors de l'expédition d'Égypte de 1798 à 1801, les artistes ont accompagné le général Bonaparte. Celui-ci souhaitait que cette expédition d'Égypte ne soit pas une simple campagne militaire, mais une véritable expédition culturelle et scientifique. On en rapporte de nombreux croquis, des sites archéologiques visités, des récits de voyage.
Dès lors, les artistes s'intéressent à des régions jusqu'alors peu connues. L'amélioration des moyens de transport et notamment l'arrivée du bateau à vapeur permettent à de nombreux peintres, photographes, écrivains de se rendre eux-mêmes en Orient. Les Français visiteront essentiellement le pourtour méditerranéen et les Britanniques iront jusqu'en Inde.
L'expédition française en Algérie en 1930 et la colonisation
entraîne un essor considérable d'œuvres sur ce thème. En 1832, Delacroix voyage au Maroc et en Algérie et en tire de nombreux sujets de tableaux, avec des scènes de vie quotidienne comme les femmes d'Alger, où celles-ci sont représentées dans l'intimité de leur chambre. La femme orientale devient la nouvelle muse des artistes européens. Sa beauté intrigue.
Des couleurs vives et chatoyantes, des tons chauds, des teintes rouges, jaunes ou brunes, des contrastes accentués dans les représentations des déserts, oasis ou villes orientales. Alphonse de Lamartine disait dans « Voyage en Orient, vous avez à toutes les heures du jour et de la nuit le plus magnifique et le plus délicieux spectacle dont puisse s'emparer un regard humain. C'est une ivresse des yeux qui se communique à la pensée, un éblouissement du regard et de l'âme. »
Pour conclure ce sujet, on vous propose d'écouter un extrait de la mise en musique par la classe de 5e C du poème « Les djinns » tiré des Orientales de Victor Hugo.
Mur, vie et port, asile de mort, l'air grise ou brise, la brise tout d'or.
Dans la plaine des temps bruits,
c'est la laine de la nuit.
Elle brame comme une âme d'une flamme.
Toujours suit.
La voix plus haute
semble un grelot.
Nanin qui saute,
c'est le galop.
Il fuit, s'élance,
plus en cadence.
Sur un pied danse,
au bout d'un flot.
La rumeur approche,
l'écho la rugit.
C'est comme la cloche
d'un couvent maudit.
Comme un bruit de foule
qui tonne et qui roule.
Et tantôt s'écoule,
et tantôt rangé.
Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font. Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà c'est un malin, et l'ombre de la rampe qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond.
C'est les seins des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout prêts, tenons fermés cette salle où nous les narguons.
Quel bruit dehors!
Hideuses armées de vampires et de dragons.
La poutre du toit décelée ploie ainsi qu'une herbe mouillée.
Et la vieille porte rouillée tremble
à des racines d'égaux.
Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure.
L'horrible dessin poussé par l'Aquilon.
Sans doute au ciel s'abat sur ma demeure.
Le mur fléché sous le nain bataillant.
La maison crie et chancelle penchée.
Et l'on dirait que, du sol arraché,
ainsi qu'ils chassent une feuille séchée.
Le vent la roule avec leur tourbillon.
Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front devant tes sacrés encensoirs.
Fais que sur ces portes fidèles meurt leur souffle d'étincelle et qu'en vain l'ombre de leurs ailes grince et qui crie à ces vitres noires.
Ils sont passés.
Leur corps s'envole et fuit.
Et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés.
L'air est plein d'un bruit de chêne
et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié.
De leurs ailes lointaines,
le battement décroît.
Si confus dans les plaines,
si faible que l'on croit.
Ouïr la sauterelle,
crier d'une voix grêle,
ou pétiller la grêle
sur le plombe d'un vieux toit.
D'étranges syllabes
nous viennent encore.
Ainsi des arabes
en sonnent le corps.
Un chant sur la grève
par instant s'élève,
et l'enfant qui rêve
fait des rêves d'or.
Les djinns funèbres,
fils du trépas,
dans les ténèbres,
pressent leurs pas,
leur essaim gronde,
ainsi profonde,
murmure une onde.
Ce bruit vague qui s'endort,
c'est la vague sur le bord.
C'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort.
Tout passe, l'espace efface le bruit.
On doute, la nuit, j'écoute, tout fuit.
On continue en poésie sur la voie ferrée avec un texte rigolo inventé avec 20 mots venus de l'étranger. Boulanger, toboggan, karaoké, coton, des mots voyageurs, il en existe des milliers dans le lexique français. Manon, on t'écoute.
Il était une fois, en haut de sa montagne, un boulanger, fan de karaoké, qui chantait toute la journée les chansons de sa star préférée, Sabine. Comme tous les matins, il faisait sa tournée de pain en ski. Ses tarifs défiaient toute concurrence. En descendant la piste, il vit sa star préférée, la virtuose. Tel un typhon, il ne put s'arrêter et propulsa Sabine. Quelle galère ! En se relevant, elle lui proposa de l'amener à un concours de karaoké au Zénith. Mais il se rappela qu'il chantait comme un pied. Se disant que cette rencontre était le fruit du hasard, qu'il avait quand même plus de chance de rencontrer un robot en mocassin que Sabine, la reine des arpèges, il lui proposa à la place plusieurs activités. Du shopping dans les magasins, observer les vagues derrière les baraques, admirer des nénuphars en pyjama, déguster un yaourt saveur coton. Ils se mirent d'accord pour une autre activité, passer une journée dans un parc de toboggans et aller observer les girafes.
Super fun ce poème, et dire que 20 de ces mots sont des mots voyageurs. C'est d'ailleurs le nom que portait l'exposition que certains élèves de 4e sont allés voir en décembre à la condition publique de Roubaix. En effet, la langue française a accueilli des mots venant de pays très lointains au cours des siècles. Il s'agit du résultat des guerres, du commerce et de la colonisation. Ce sont des mots arabes, italiens, néerlandais, perses. En effet, l'italien a influencé le français pendant la Renaissance. Notre langue compte aujourd'hui près d'un million de mots empruntés à l'italien, environ 300 mots provenant de l'arabe et environ 300 mots de l'espagnol.
Dans le domaine de la science, il faut surtout souligner l'importance des emprunts à l'arabe, car les arabes étaient au Moyen-Âge des grands savants et mathématiciens. Ils ont laissé par exemple les mots algèbre, chiffre et zéro. Toujours au Moyen-Âge, les foires ont joué un rôle important dans la constitution du lexique français. Les marchands venus du nord pour y vendre leurs draps et leurs produits de la mer et de la terre rencontraient ceux du sud, qui apportaient sur le marché des produits venus d'Orient, les épices odorantes, la soie précieuse. C'est là que se rencontraient les marchands venus d'ailleurs. Les échanges commerciaux ont aussi donné des échanges de mots. Reblochon du savoyard, bijoux du breton, vidange du flamand, quiche de l'alsacien, bizarre du basque.
Cette découverte montre bien qu'il n'existe pas vraiment de frontières et que la découverte de l'autre et le métissage sont une richesse.
La Voix Ferrie, la radio du collège du Pays.
Hey Léontine, ce serait quoi le pays de tes rêves ?
Laisse-moi réfléchir quelques instants.
Oh, tu as le temps.
Alors, mon pays rêvé ? Je le voudrais qu'un climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid. On y trouverait la plage, la montagne, de grands jardins, des livres. Mais surtout, pas de pollution. Une chose essentielle, la paix.
La paix ? La paix ? Qu'on te fiche la paix ?
Mais non ! Enfin, si, mais je ne parle pas de cette paix-là. Que les gens vivent en paix. Il n'y aurait pas de violence. On supprimait la pauvreté. Et d'ailleurs, l'argent n'aurait jamais existé dans mon pays rêvé.
Quelle naïveté, ma pauvre Léontine.
Eh bien, vas-y, on t'écoute. Ce serait quoi ton pays préféré à toi ?
Je le vois avec pas trop de monde, ma famille, mes amis qui m'entourent, des animaux, de la nourriture à foison, des parcs d'attractions avec des doudous qui prennent vie.
Ah oui, trop drôle. Attends, Justine, tu entends ?
Entends quoi ?
Chut, écoute.
En effet, ça fait rêver. Jolie carte postale sonore de vos pays rêvés. Tu t'y vois pas, Faustine ?
Oh que si, si seulement ça pouvait exister un tel pays !
Cessons nos rêveries et revenons à notre sujet, donnant la parole à Mila.
Merci Antonin. On vous a parlé de l'arrivée d'immigrés en France, du mélange des cultures, de la double culture, de l'aspect cosmopolite de notre pays. Mais je me pose tout de même une question, et pas des moindres. Est-ce que c'est si facile que ça d'arriver en France et de s'y installer ? Les étrangers sont-ils bien accueillis ?
Oh, pas si simple. D'ailleurs, on a eu la chance d'accueillir au mois de novembre l'exposition Tous Migrants de Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse engagés. L'association s'attache au respect du pluralisme des cultures et des opinions. Cette exposition, créée en 2017, est composée de 13 kakémonos de grands panneaux qui retracent, à l'aide de dessins de presse, le parcours des migrants et les difficultés qu'ils rencontrent pour arriver en Europe. Cécile vous explique ce qu'est un dessin de presse.
Un dessin de presse est fait par un journaliste et sert à donner un point de vue sur l'actualité. Il est diffusé par un média, papier ou numérique. Il traduit en une image ce qu'un article de presse peut développer, en une dizaine de lignes. Alors Valentine, quelles difficultés rencontrent les migrants ?
Eh bien, c'est un vrai périple pour eux. Premièrement, ce n'est pas facile de quitter sa patrie, son pays, sa famille. C'est un déchirement. Les raisons de leur départ sont nombreuses. Politique, guerre, régime totalitaire, catastrophe naturelle, misère ou violence. Mais ils partent avant tout pour une meilleure qualité de vie. On comprend dans l'exposition qu'il existe deux classes de migrants, légaux ou illégaux. Les premiers ont un permis de travail, un justificatif d'études ou de regroupement familial et leur voyage s'effectue sans difficulté. Pour les autres, on parle de clandestins. Ils n'ont donc qu'à papier et sont obligés de subir un parcours éprouvant. Ils marchent, courent, nagent, escaladent, se cachent, attendent pour éviter les contrôles et la détention. Ils sont les victimes de passeurs qui les rançonnent, leur font du chantage et leur font miroiter un bel avenir. Les violences sont nombreuses, esclavage, abus sexuels, malnutrition. Une fois arrivés sur le sol de leurs rêves, après avoir traversé de nombreux pays, ils rencontrent les murs construits aux frontières. Ils se réfugient dans des camps de fortune où ils subissent toujours les mêmes souffrances, isolement, pauvreté, insécurité. Arrive alors une longue attente pour la régularisation. Une fois acceptés dans leur nouveau pays, les migrants commencent une nouvelle vie, c'est l'intégration. Il faut s'habituer à cet environnement, trouver un logement, un travail, apprendre une nouvelle langue et les règles du pays dans lesquels ils sont arrivés. Pour aller plus loin, 5 élèves ont eu la chance d'être accueillis à l'abri, à centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Lille, pour écouter le parcours des femmes étrangères arrivées en France depuis peu. Écoutons le reportage.
Tu vois, toi, tu vas partir en vacances, tu vas partir au Maroc, en Algérie ou n'importe. Tu donnes ton passeport, ta carte d'identité. Tu sais que tu reviens après en France.
Ils ne peuvent pas avoir un passeport là maintenant.
Elles peuvent avoir un passeport marocain, algérien, mais ce n'est pas français. Donc si elles retournent là-bas,
elle reste là-bas.
Et c'est combien de temps que pour faire un passeport français ?
Ben, faut qu'elles
beaucoup des années.
Des années.
Bonjour Chloé. Vous êtes éducatrice à l'abri. Quelles sont vos missions ?
Notre travail au sein du foyer l'abri, c'est d'accueillir, accompagner, écouter les femmes victimes de violences. Donc, on les accompagne dans tout ce qui est le quotidien. Donc, quotidien, quand je parle de quotidien, c'est accueillir les femmes, leur proposer une solution d'hébergement, leur proposer des activités, leur faire un dépannage alimentaire, d'hygiène. Et leur proposer également des activités, des cours de français, des cours de sport, tout ça au sein du foyer l'abri. On accompagne aussi les femmes dans leurs démarches administratives, donc leurs papiers, leur sécurité sociale, parce que les dames, quand elles viennent, elles n'ont pas de couverture sociale, ou du moins une grande partie n'en ont pas. On les accompagne également dans tout ce qui est réorientation. Parce qu'ici, c'est un accueil d'urgence. Et nous, notre travail, c'est que les dames, elles aient une solution d'hébergement mieux qu'ici. Du coup, on travaille avec la plateforme qui s'appelle le SIAO pour faire des réorientations. Mais je dirais que la plus grande partie de notre travail, c'est l'écoute. On passe beaucoup de temps à écouter les dames, à les conseiller au mieux. On fait attention à leurs besoins, on prend du temps à les écouter, qu'elles nous racontent leur parcours ou non. Il faut savoir que les dames, elles ne sont pas dans l'obligation de nous raconter leur parcours, d'où elles viennent et ce qu'elles ont vécu. C'est une grande partie de notre travail.
Merci à vous d'avoir répondu à notre question.
De rien.
Et c'est
à la foyer, la sécurité, mix everything. You have good accommodation. You sleep in a good berth. You have a space on your own, which you don't have to fight with someone. Good health insurance.
Bonjour Jamina, vous venez du Maroc et vous êtes arrivée en France en 2021. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
À mon arrivée ici, j'étais très contente de découvrir un nouveau pays, une nouvelle tradition, une nouvelle vie. J'étais motivée pour apprendre français parce que quand j'étais au Maroc, c'est ma meilleure langue que j'aime, c'est le français. Quand je suis arrivée en France, j'ai fait des formations pour améliorer mon français. Mon mari a voulu se séparer de moi. Et je suis retrouvée dehors dans la rue pendant 3 mois. Et j'ai beaucoup souffert. Puis j'ai été accueillie à l'abri. Depuis que je suis arrivée à l'abri, j'ai un toit, je me sens libre. Et en sécurité, j'ai à manger. Je peux me doucher à l'heure que je veux. On m'aide pour mes papiers. Mais avant d'accueillir à l'abri, j'étais dormie à l'église pendant un mois. J'étais avec mes copines que j'ai connues en formation. Jusqu'à l'abri, ils m'appellent.
Qu'aimez-vous en France ?
Et donne l'occasion aux gens pour, par exemple, les formations. Ici, l'occasion pour tout le monde, qui a d'argent, qui n'a pas d'argent. Tout le monde peut faire les formations.
Qu'est-ce qui vous manque de votre pays ?
Ce que j'en manque dans mon pays, c'est la famille, mes copines. On rayonne avec ma famille pendant les fêtes, pendant, comme ça, le ramadan. C'est ce qu'il manque, la vérité. D'autres choses, rien.
Bonjour Ayet, vous venez d'Algérie, vous êtes arrivée en France en 2021. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Bonjour Justine, j'arrive en France 2021 et j'ai marié le 4 décembre 2021. J'ai fait le mariage à Paris. Et je suis contente avant quand j'arrive ici en France parce que un autre pays. Et je regarde beaucoup de choses, la Tour Eiffel, Chantilly, c'est beaucoup. Mais j'ai fait le mariage le 4 décembre et après j'arrive ici à Tourcoing. Et après le mariage, il y a beaucoup d'histoires. Le mari, elle est mariée. Après une semaine, il dit « Oui, je suis mariée et j'ai déjà les enfants. » Mais vraiment, j'ai choqué. J'ai sorti comme ça. N'ai pas payé, n'ai rien.
Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être à l'abri ?
Je suis contente ici dans l'abri parce que j'ai fait les cours de français. Mais vraiment, je suis contente. C'est vrai, ici, dans le foyer, c'est pas facile. Hein. Mais le jour bien, le jour n'est pas bien. Comme ça, la vie. C'est pas comme ça tous les jours bien, non. Jour sourire, jour pleure. C'est ici en sécurité, c'est pas un... Même pour le travail la nuit, les femmes ici, elles travaillent la nuit. Toujours ici, quelqu'un, toujours, elle regarde comme ça. Elle donne la banque alimentaire une fois par 15 jours ici en France. J'ai découvert un nouveau pays. En France, ici, c'est l'école. Vraiment, l'école, c'est important. Les études. Pour travailler, pour faire les formations, pour avancer.
Qu'est-ce qui vous manque de votre pays ?
La première chose, c'est la maman. Parce que la maman, c'est une maman. Mais ce n'est pas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est une maman. Et quand, même ma sœur, ce n'est pas comme maman. Non.
Et toi, Anna-Marie, qu'est-ce que tu aimes de la France ?
J'aime la sécurité. Quand je retourne à Gambie sans papier, je n'ai pas sécurité. Donc, il faut que je reste ici jusqu'à ce que j'ai gagné mon papier.
Comment es-tu venue jusqu'en France ?
Je suis venue avec la visa en avion. Si je n'ai pas le papier en France ici, ce n'est pas possible pour que je rentre à Gambie. Quand je rentre à Gambie sans papier, papier de français, c'est pas possible que je vienne en Europe ou France aussi.
Bonjour Georgette, avez-vous été bien accueillie en France ?
J'ai été bien accueillie, ce que j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'est la première fois que je découvre déjà d'abord l'aéroport qui m'avait impressionné. Et quand vous arrivez, c'est des escalators qui ne sont pas chez nous. Vous arrivez, c'est les métros, c'est des choses qui ne sont pas chez moi. Donc je ne pouvais qu'être impressionné. Et en ce moment-là, je suis reçu dans une famille. J'étais dans une famille africaine. Et après, j'ai pu avoir une chambre dans un foyer. Je suis allé habiter seul. Et ce qui était impressionnant, vous arrivez quand même dans une... Vous allez étudier quelque part où, parfois, moi, j'étais seul. J'étais seul, une personne de couleur, il n'y avait que des blancs. Je m'intègre, j'ai des copines... J'ai eu l'occasion de côtoyer les Français et j'ai étudié en français. J'ai eu cette opportunité-là de m'habituer déjà. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes qu'au Congo. Les soins de santé, parce que chez nous, nous avons des dirigeants qui ne travaillent pas, qui ne se soucient même pas de la vie. Ils ont l'habitude de venir se faire soigner en France. Les enfants habitent en France. Donc, du coup, c'est des gens qui n'améliorent pas les conditions. Alors, je vous dis qu'au Congo, la santé coûte énormément cher. Il n'y a pas... Vous voyez, dans un hôpital où il n'y a pas de l'IRM, parfois, vous voyez des conditions déplorables. Oui, il est plus facile de se faire soigner en France. Et ici, vous avez des médecins qui font attention. Mais au Congo, c'est pas facile pour avoir un médecin qui vous consulte, mais déjà qui n'ont pas d'appareil pour confirmer, par exemple, un mal. On vous demande parfois de faire l'IRM, parfois c'est l'échographie, parfois c'est le scanner. Mais ça, c'est des trucs... bien que qui existe dans certains cas, mais ça coûte excessivement cher, c'est pas donné vraiment à la portée de tout le monde.
Nous écoutions le parcours de femmes courageuses arrivées dans notre pays depuis quelques années et qui ont connu un parcours de vie compliqué. La France est l'un des pays européens où les immigrés bénéficient le plus de droits sociaux. Des associations et des bénévoles les aident au quotidien. C'est le cas de l'une de nos professeurs, Madame Fruleux, qui intervient à l'abri.
Bonjour Madame Fruleux, vous êtes professeure de SVT au collège, mais vous intervenez également au sein de l'association Solfa au foyer L'Abri. Combien de fois par semaine y allez-vous ? Quelles sont vos missions ?
Alors j'interviens tous les mercredis et parfois en fin d'après-midi un autre jour de la semaine. Alors je ne suis pas la seule intervenante au foyer L'Abri, il y a d'autres personnes qui interviennent dans différents domaines. Ma mission principale est d'apprendre le français aux femmes qui vivent dans ce foyer et qui sont volontaires. Alors nous travaillons à l'écrit et à l'oral. Cela fait également partie de mes missions de les écouter, d'échanger avec elles et aussi de leur offrir une écoute active.
Est-ce difficile d'apprendre le français pour ces femmes ?
Alors non, ce n'est pas difficile car elles sont toutes volontaires pour apprendre le français. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux à donner des cours de français. Je suis la seule cette année. Et donc, pour elles, c'est peu de cours de français par semaine. Et elles progressent parfois lentement. Comme elles viennent principalement d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, elles ont tendance à échanger dans leur langue natale quand elles sont entre elles au foyer. Et elles utilisent peu le français. De plus, elles sont pour la plupart en situation irrégulière et donc elles ne peuvent pas intégrer de formation professionnelle. Elles ne peuvent pas non plus intégrer des études pour apprendre le français. Il faut savoir aussi que la majorité d'entre elles ne travaillent pas et n'a pas souvent l'occasion de parler français.
Pourquoi était-ce une mission importante pour vous ?
Mais en tant qu'enseignante, il me semble important d'apporter bénévolement mon savoir-faire. J'ai déjà fait partie d'autres associations, mais l'association Solfa me tient vraiment à cœur. Il me semble important de travailler avec ces femmes qui sont courageuses et qui ont toutes vécu à un moment donné de leur vie une certaine forme de violence. Leur parcours de vie me touche particulièrement et c'est pour ça que je voulais m'engager auprès d'elles et leur apporter un peu de soutien.
Comment, à notre échelle, on peut leur venir en aide?
Alors, vous pouvez, vous, en tant que collégien, relayer les actions réalisées par cette association, puisque vous êtes venu au foyer et que vous avez interviewé certaines de ces femmes ainsi qu'une éducatrice. Cela peut leur apporter une certaine forme de soutien. Mais également, vous pouvez vous mettre en liaison avec l'association Solfa, qui recherche des vêtements pour femmes, mais également pour enfants, ainsi que des jouets. Et j'espère que dès que vous en aurez l'âge, mais également l'occasion, vous vous engagerez bénévolement dans le domaine associatif et peut-être que nous nous retrouverons ensemble donc à l'association Solfa ou dans d'autres associations.
Merci Madame Fruleux de nous avoir accordé de votre temps.
Merci.
Antonin, nous voilà bientôt à la fin de notre émission.
Eh oui Faustine, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Mais avant ça, j'aimerais vous décrire un peu le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, un endroit magnifique qui nous rappelle la beauté du jardin Majorelle de Marrakech au Maroc. Des palmiers, du soleil, de la couleur vive, des bonnes odeurs, du thé, de la menthe, on s'y croirait.
Nous sommes d'ailleurs en compagnie de nos professeurs, mesdames Dufort et Penalba, qui nous accompagnent pour cette journée. Qu'avez-vous pensé de notre émission?
Eh bien, j'ai passé un temps délicieux en votre compagnie, parce que vous avez été vraiment très professionnels. J'ai appris énormément de choses et vous m'avez épatée, parce que vous nous entendez, mais vous ne nous voyez pas. Et je peux vous garantir qu'ils ont été vraiment exemplaires et exceptionnels pour cette émission. Merci à eux et bravo à tous ceux qui ont contribué à l'émission. Vous pouvez être très fiers de vous.
Oh, que c'est bon d'entendre les voix de chacun parler de cette belle invitation au voyage, que le métissage est beau, qu'il est enrichissant et continuons de l'apprécier.
Un grand merci d'avoir partagé un moment avec nous au Jardin Majorelle qui vous accueille le mardi, le vendredi de 11h à 18h et le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Il est temps maintenant de vous dire au revoir, on espère que vous avez apprécié ce thème de cette année, venir d'ici ou d'ailleurs.
On tient à remercier tous les élèves qui ont participé à l'émission, à la direction du collège, qui nous permet de continuer cet atelier radio. Merci également à l'association L'Abri, qui nous a ouvert ses portes. Merci à Madame Fruleux pour son interview et son investissement, à Madame Dufort et à Madame Kamal pour l'accompagnement tout au long de l'année. Merci à Arnaud Darras, directeur de radio RPL Lambersart, de nous avoir partagé son expertise et d'avoir maîtrisé la technique pour l'enregistrement. On vous souhaite de très bonnes vacances d'été et on espère vous retrouver très nombreux à la rentrée.
Et on vous dit à bientôt sur La Voix Ferry.
Bravo, vous pouvez être fiers de vous. Et maintenant, à table.
La Voix Ferry, la radio du Collège Jules Ferry.